Chapitre 6. Autant son père avait été irrégulier dans ses leçons, autant Nicetta était exact dans les siennes. Si l'un avait toujours été en retard, l'autre était toujours en avance. Quand il arrivait ainsi trop tôt, il demandait au concierge de ne pas l'annoncer par un coup de cloche, et se glissant par la petite grille entr'ouverte, il se promenait en attendant son heure dans les jardins. Lady Capados, le voyant alors errer à petits pas, la tête tournée vers le château, s'attendrissait sur lui. « Le pauvre garçon !» se disait-elle, « il rêve au château de ses pères !» Et par la pensée, elle s'envolait sur les bords de la Neva, où elle avait décidé, sans aucune raison pour cela bien entendu, que devait se trouver ce château. « Comme il doit souffrir de cette misérable vie de musicien, en la comparant à celle de ses frères, et jamais une plainte, jamais une allusion. Le stoïcisme !» Elle trouvait que par là, il se rapprochait d'elle, qui jamais non plus ne faisait allusion à ses grandeurs déchues, et cette ressemblance le lui rendait plus sympathique encore. Elle eût voulu lui offrir les consolations d'un cœur qui avait passé par ses épreuves, mais comment ? Il portait si dignement le malheur. Ne pouvant rien pour lui franchement, elle s'ingéniait par de petits moyens détournés à lui prouver qu'une femme qui avait, elle aussi, du sang royal dans les veines, elle descendait des rois d'Écosse incontestablement, compatissait à son infortune et qui n'était pas seule. Quand il arrivait par un temps froid, elle veillait à ce qu'il se réchauffât avant sa leçon. Quand c'était par une journée de soleil, elle lui faisait servir des rafraîchissements, quoi qu'il fît pour s'en défendre. Tout cela accompagné de bonnes paroles, de câlineries, de cajoleries. Une mère n'eût pas eu plus de prévenance avec un fils. Dans son élan de compassion, elle eût souhaité que Ghislaine s'associât à elle, sinon avec la même franchise, au moins avec une sympathie secrète. Malheureusement, Ghislaine ne voyait dans Nicetta qu'un professeur comme les autres, moins ennuyeux que certains autres, parce qu'elle aimait l'art qu'il enseignait. Mais c'était tout. Si, lorsqu'il entrait, elle l'accueillait toujours avec plaisir, ce plaisir était simplement celui d'une musicienne heureuse de jouer avec un artiste de talent. Elle n'avait aucune arrière-pensée et ne se doutait pas que cet artiste, réduit à toucher un cachet, était un Romanov. Comment l'idée lui en serait-elle venue? Ce n'était pas à une jeune fille de son âge, élevée comme elle l'avait été, qu'on pouvait parler des hontes de cette illustre origine. C'était le lundi et le vendredi que Nicetta venait à Chambray. Le vendredi qui suivit l'émancipation de Ghislaine, il arriva comme toujours en avance. L'heure de la leçon était 3 heures. Un peu après la demie de 2 heures, Lady Capados l'aperçut se promenant dans le jardin. En apparence, il donnait toute son attention aux fleurs des plates-bandes, mais en réalité, il tournait assez souvent la tête vers le château pour qu'on devinât sa préoccupation. Il pensait à la Neva. La journée était brûlante. D'un ciel bleu vaporeux pommelé de blanc, tombait une chaleur lourde qui le força à s'abriter dans un berceau d'if taillé ras. Et là, ne se sachant pas observé, il resta la tête franchement levée sur l'aile du château qu'il avait devant lui, celle habitée par Ghislaine. De la fenêtre derrière laquelle elle était, Lady Capados ne lui voyait point les yeux, cachés qu'ils étaient comme toujours par les cheveux rabattus sur le front, mais à l'attitude générale, on pouvait suivre sa pensée. Chambray lui rappelait le château de la Neva, et en l'observant avec cette fixité, il revivait, le pauvre jeune homme, les années de sa jeunesse, celles qu'il avait passées dans les joies de la famille et la paix du cœur, auprès de son père, entre ses frères et sœurs. Au coup de 3 heures, il se leva, et après avoir secoué sa longue chevelure en mêlée et l'avoir arrangée avec ses doigts sur son cou et sur son front, il se dirigea vers le château. Aussitôt, Lady Capados descendit pour être auprès de Ghislaine quand il entrerait. Elle était toujours bizarre, cette entrée, et étudiée pour produire un effet quelconque. Tantôt, il paraissait tomber du ciel, engourdi dans un ravissement séraphique. Tantôt, au contraire, on aurait pu croire qu'il surgissait directement de l'enfer, désespéré. Ce jour-là, c'était la période du recueillement. Après avoir adressé une longue et basse inclinaison de tête à Ghislaine, sans prononcer un mot, une autre un peu moins longue et moins basse à Lady Capados, il tira son violon de la boîte dans laquelle il dormait depuis 3 jours, l'accorda avec soin et se mit à son pupitre. Alors seulement, il daigna ouvrir les lèvres. « Quand vous voudrez, mademoiselle !» La séance devait se composer de deux parties, l'une réservée au déchiffrage, l'autre à l'exécution des morceaux déjà travaillés. Ce fut par le déchiffrage qu'ils commencèrent, et comme pendant les hésitations, les arrêts, les reprises, Lady Capadoce pouvait se laisser distraire par les choses extérieures, elle remarqua bientôt que le ciel se couvrait et que le vent s'était élevé. Un orage ! Mais alors, elle aurait un prétexte pour retenir Nicetta et prolonger la musique de 2 heures au moins. Cependant, avec sa prudence accoutumée, elle ne dit rien tout de suite. Ce fut seulement quand les roulements du tonnerre se rapprochèrent qu'elle prépara son invitation. « Est-ce que votre soirée est engagée aujourd'hui ? » demanda-t-elle entre deux morceaux. « Non, madame. »« C'est heureux, car je crains bien que vous ne puissiez pas partir à votre heure habituelle. Je crois que nous allons être assaillis par un orage terrible. » Il ne répondit rien, mais si elle l'avait observé d'un peu plus près, elle aurait remarqué qu'il attachait sur Ghislaine un regard dont l'expression était pour le moins étrange. Les coups de tonnerre éclatèrent de plus en plus fort, l'obscurité s'épaissit, les nuages que roulait le vent crevèrent en une trombe d'eau. Ghislaine s'arrêta de jouer. « Décidément, dit Lady Capadoce, vous ne pourrez pas partir. » Mais Ghislaine, qui avait depuis longtemps deviné les malices de sa gouvernante et trouvait qu'il était peu délicat de payer d'un dîner les heures prises de cette façon, voulut intervenir. « Si vous avez besoin de rentrer à Paris, dit-elle, on fera atteler pour vous reconduire à la gare. » « Je n'ai nullement besoin de rentrer, personne ne m'attend. »« Alors, nous vous gardons à dîner, » dit Lady Capadoce. « Mais, madame !»« C'est entendu !» Elle sonna pour qu'on transmît ses ordres au maître d'hôtel. L'orage qu'elle avait annoncé terrible fut au contraire assez faible, les roulements du tonnerre s'éloignèrent, la pluie cessa, et Nicetta aurait très bien pu repartir pour la gare à son heure habituelle, mais puisqu'il avait promis de rester, il n'était pas décent qu'il reprît sa liberté. Aussi, quand la séance de travail fut finie, eut-elle la joie de se faire jouer jusqu'au dîner les morceaux qu'elle demandait. Ce n'était pas seulement pour Nicetta que Ghislaine trouvait les artifices de sa gouvernante désagréables et mauvais, c'était aussi pour elle-même. Tant que durait la leçon, elle était parfaitement à son aise. Toute la musique qu'elle jouait, elle ne voyait en lui que l'accompagnateur et il réalisait toutes les qualités qu'elle pouvait désirer. C'était bien l'artiste de talent, de grand talent, le musicien que Soupert avait recommandé. Mais à table, l'artiste devenait un invité comme un autre, un monsieur quelconque, et cet invité, ce monsieur, la mettait mal à l'aise. À table, elle ne se laissait pas emporter comme au piano, elle avait tout son calme, sa raison, et ce qu'elle voyait la blessait comme ce qu'elle entendait. La façon dont il la regardait à la dérobée l'obligeait le plus souvent à tenir ses yeux sur son assiette. Quand elle les levait, elle le voyait prendre des attitudes mélancoliques ou inspirées qu'elle trouvait grossièrement ridicules. Et quand il parlait, il y avait dans les discours qu'il adressait généralement à Lady Capadoce ou dans les moindres mots qui tombaient de ses lèvres, une affectation à la bizarrerie, une tension à la pose dont elle ne pouvait pas ne pas être blessée, elle qui était la franchise même. Cela l'avait frappé le premier jour, et depuis, c'était toujours continué. L'un des valets qui faisait le service de table lui ayant offert du vin, il avait refusé en disant qu'il ne buvait que de l'eau glacée et que plus elle était glacée, meilleure il la trouvait. Elle ne pensait point que boire du vin fût un mérite et boire de l'eau un vice, mais le ton sublime de cette réponse l'avait choquée et comme depuis à chaque instant il en avait eu du même genre, elle dut le juger pour ce qu'il était et pour ce qu'elle méprisait le plus, un comédien. Aussi, quand Lady Capadoce avait réussi à le retenir, ce qui d'ailleurs n'était guère difficile depuis quelque temps, cherchait-elle toujours à abréger le dîner. Ce soir-là, l'orage lui fournit un prétexte. « Si vous voulez, dit-elle à sa gouvernante, un peu avant de quitter la table, nous ferons ce soir un tour dans le parc. Après la pluie, il est agréable de marcher sous bois. » Il n'y avait pas à insister pour garder Nicetta. À son grand regret, Lady Capadoce, qui, au lieu de s'exposer à l'humidité des bois, aurait mieux aimé passer la soirée au coin du piano à entendre de la musique, dut se conformer à cette invitation. En sortant de la salle à manger, Nicetta tourna à droite, Ghislaine tourna à gauche, accompagnée de Lady Capadoce, et tandis qu'elle descendait le perron du vestibule qui accède au jardin, il descendait, lui, celui de la cour d'honneur. « Je crois que nous aurions pu garder M. Nicetta ce soir, » dit Lady Capados, continuant son idée. « C'est justement pour ne pas le garder que j'ai proposé cette promenade. » « Et pourquoi ne vouliez-vous pas le garder ?»« Parce que mon oncle trouve que je fais trop de musique et désire que j'en fasse moins. »« Il n'aime pas la musique, monsieur de Chambray. » Comme il ne convenait pas à Ghislaine de soutenir une discussion sur les idées et les goûts de son oncle, elle ne répondit pas, mais Lady Capados, qui était outrée, continua. « Je regrette que monsieur de Chambray ne n'ait pas adressé son observation. » « Puisque j'ai la direction de votre travail, c'était à moi qu'elle devait être présentée. » Mon oncle n'avait pas en vue les heures du travail, mais celles de la distraction, et c'est pour cela qu'il m'a fait son observation amicale au lieu de vous l'adresser. Si doux qu'eût été le ton de cette réponse conciliante, il ne désarma point Lady Capados, qui ne savait de quoi elle était le plus furieuse, ou de l'atteinte portée à son autorité, ou de la suppression des séances supplémentaires de musique. Je ne connais pas de distraction mieux employée que celle qu'on donne à la musique, plus saine, plus morale. Ghislaine n'avait rien à répondre. Elle était débarrassée de ses dîners, cela suffisait, et pour l'heure présente, plutôt que de discuter, elle aimait mieux être tout au plaisir de la promenade et de la rêverie. Le soir tombé, et de la terre trempée par l'orange, montait avec des buées blanches le parfum des fleurs du jardin, mêlé à l'âcre odeur des herbes et des mousses du parc. Après la chaleur du jour, il était réconfortant de se baigner dans cette fraîcheur, comme il était doux aux yeux, après les violentes clartés du matin, de se perdre dans les vapeurs grises qui rampaient aux extrémités des longues allées droites. C'était bien à Nicetta qu'elle allait penser vraiment, de lui qu'elle allait s'occuper.